Micro ouvert.
Qui est le plus fort ici? Quand tu pleureras, on arrêtera la bataille.
Si quelqu'un nous embête, je peux l'attaquer parce que moi je suis sale.
La cour de récréation est bien plus violente que l'on imagine. Au début des années 1990, la réalisatrice Claire Simon filme une cour de récréation, celle de l'école maternelle de sa fille. Dans les jeux d'enfants émergent des rapports de force, des alliances, des humiliations. Il y a des bourreaux, des sauveurs et des victimes. Des enfants qui testent les limites, comme des adultes en miniature. On y voit un petit garçon qui propose de jouer à se couper les cheveux. Mais les autres préfèrent un jeu bien plus cruel, geôlier contre prisonnier.
Vous êtes en prison !
C'est quoi ça ?
Vous êtes en prison !
Chez les filles, plus d'empathie, en apparence seulement, car elles aussi peuvent se montrer dures.
Tu sais le faire, toi ? Myriam, elle est plus petite que toi, elle y arrive !
Au milieu de cette violence du quotidien, il y a aussi de la grâce et de la magie. Pour Claire Simon, ses enfants sont comme des scénaristes. En inventant des histoires, ils se relient les uns aux autres. La cour devient alors un véritable théâtre. Il y a d'ailleurs une anecdote assez folle derrière ce film. À cause du bruit de la cour pendant le tournage, le son original était inutilisable. Le diffuseur de l'époque, Arte, propose alors d'ajouter un commentaire. Mais Claire Simon refuse et prend une décision radicale. Chaque enfant va doubler sa propre voix. Chaque scène est rejouée mot pour mot. Un travail long et minutieux qui va donner une patte particulière au film.
Je sais pas s'il arrive encore.
À l'occasion d'un entretien avec la réalisatrice, nous avons évoqué ce que révèle son documentaire. La possibilité du pire, comme du meilleur, déjà à l'œuvre chez les enfants.
Je vais vous répondre par la phrase de Spinoza qui est au début de Récréation. L'impuissance de l'homme à contenir ses sentiments, je l'appelle servitude. En effet, l'homme soumis aux sentiments ne dépend pas de lui-même, mais de la fortune dont le pouvoir sur lui est tel qu'il est souvent amené à faire le pire alors qu'il voit le meilleur. J'avais l'impression... Et j'ai toujours l'impression que la cour est un théâtre pour la philosophie. C'est comme si un philosophe, quand il réfléchit, voyait la cour, toujours. Et il voit la cour et il voit ce qui se passe. Il voit, voilà, les tragédies et les comédies.
Des jeux d'enfants ou déjà les premières scènes de nos vies. Le film Récréation est à découvrir dans la collection Claire Simon sur France.tv.
Alors dans ce micro ouvert, on écoute une conférence débat sur la situation dans les IPPJ. C'était le 7 avril 2026 et je remercie vraiment Alicia Évrard, étudiante à l'UCL Louvain-Saint-Louis-Bruxelles et membre du Génépi Belgique. Elle a été géniale, hyper au taquet, répondant même le week-end. Et donc ça donne... répondant, mais aussi organisant, quoi, hein, je veux dire. Donc, ça c'est gai parce que ça circule bien, vous voyez, on est au taquet. Et ça va, c'est simple et efficace, on y va vite, quoi, on répond vite et c'est gai. Parce que du coup, ça donne du concret sur le terrain. C'est surtout ça que je veux dire. Donc, Alicia Évrard est membre du Génépi. Mais qu'est-ce que c'est le Génépi ? C'est l'acronyme pour dire Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Il y a plusieurs intervenants. De toute façon, ils se présentent eux-mêmes dans ce micro ouvert, donc je ne vais pas répéter. Il y a aussi le GREPEC, organisé par le GREPEC. C'est un groupe de recherche en matière pénale et criminelle, c'est ça que ça veut dire. Et puis, donc, c'est la situation dans les IPPJ. Et vous savez, hein, les IPPJ, c'est Institution publique de protection de la jeunesse. Mais ça aussi, on le dit dans la suite de ce micro ouvert. Et donc, c'est la commission de surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes, CDS, publie son rapport annuel 2025. Il est rédigé à partir de 46 visites menées au sein des institutions publiques de protection de la jeunesse et du centre communautaire pour mineurs ayant fait l'objet d'un dessaisissement, on dit CCMD, ainsi qu'à partir du suivi de 26 plaintes réceptionnées par son secrétariat. Voilà, je mets via le réseau social eh bien, le rapport annuel qui fait bien 80 pages, si ça intéresse. Voilà, il y a de la lecture.
Yeah. Mic testing, 1, 2, 1, 2. Ok.
Bonjour, on m'entend bien? Ma voix porte assez bien. Donc je vais commencer. Nolan Mazur, enchanté. Donc bonjour. Moi du coup je suis conseiller moral laïque à l'IPPJ de Gauthier-Braine et j'ai la dure tâche d'essayer de vous expliquer c'est quoi une IPPJ pour commencer. Donc ça va être assez complexe, mais on va essayer d'être le plus concis et de vulgariser ça au mieux. Donc une IPPJ, c'est l'acronyme pour Institution publique de protection de la jeunesse. Il y en a 6 en Belgique, une pour filles, 5 pour garçons. Je pense qu'en tout, c'est 244 places, dont 144 en fermées, je pense. En ouvert, et 101 en fermées. Comme ça, vous avez un peu le topo là-dessus. Donc, moi, j'office dans une IPPJ qui a 4 sections ouvertes de 10 jeunes et une section fermée avec 10 jeunes, avec 2 places dans les sections ouvertes d'éducation, en plus au cas où il y a des cas très graves où on a besoin en urgence de placer un jeune. D'abord, moi, ce que je pense intéressant, c'est de vous parler de qui on place en fait en IPPJ. Donc, c'est-à-dire, c'est des jeunes qui ont commis des faits qu'on qualifie d'infractions. Ces jeunes sont âgés entre 14 et 18 ans, 13 et 18 ans, 14 ans pour la section fermée. Et il peut avoir des exceptions donc, où on peut placer des jeunes de 12 ans, mais il faut vraiment le motiver. Et on peut aussi avoir des jeunes qui vont jusqu'à 20 ans, parce qu'on peut retarder la minorité d'un jeune pour mettre en place des mesures protectionnelles et continuer à avoir un suivi avec eux. Donc c'est des cas assez rares, mais qui arrivent aussi, il faut le noter. Le profil type de ces jeunes, il est assez complexe, hein, donc on va un peu se retirer de la tête cette idée du délinquant qui fait que vendre de la drogue est consommé. On a vraiment une multitude de visages et de profils qui se mélangent, donc on va avoir des personnes bien sûr qui sont issues, je pense que c'est 40% qui sont issues de Bruxelles plus ou moins selon les statistiques. Mais on va aussi avoir des jeunes qui sont issus d'un milieu rural, on va avoir des jeunes qui ont vécu dans des centres, on va avoir des jeunes qui ont des problèmes familiaux, des problèmes de violence, des problèmes aussi de faits de mœurs, donc d'agression sexuelle. Bonjour, les mauvais élèves. Et du coup, où est-ce que j'en étais? Donc le profil de ces jeunes, il est quand même assez complexe à prendre en main. Je trouvais ça assez important quand même à vous expliquer qu'on ne va vraiment pas trouver qu'un seul profil et qu'il y a une multitude de profils avec lesquels on doit travailler en IPPJ, ce qui est quand même important à souligner. Alors, je vais vraiment essayer de vous la faire au plus court par rapport à ça, mais il y a 2 régimes majeurs en IPPJ. Il y a un régime ouvert et un régime fermé. Le régime ouvert, donc, c'est un régime où les jeunes ne sont pas enfermés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière physique qui les contraint à rester au sein de l'institution. D'ailleurs, pour l'anecdote, les jeunes peuvent fuguer. C'est une réalité. Ils peuvent fuguer. Ce n'est pas retenu dans leur dossier. C'est quelque chose qui peut être retenu par la juge en disant « Tiens, tu n'as pas mené à bien tes mesures de protection, etc. » On n'est pas arrivé à l'aboutissement de tous les projets qu'on voulait mettre en place avec toi. Donc, je vais te reprolonger dans une IPPJ ou je vais te placer dans une autre. Mais par contre, ça ne sera pas retenu dans son dossier. Ça ne sera pas pris comme un fait. Donc, si un jeune a envie de partir de l'IPPJ en régime ouvert, il part. On ne peut pas le contraindre physiquement, on le suit, et dès qu'il passe la barrière, ben, c'est au revoir, merci. Et au bout de X jours, sa place, elle ne lui est plus réservée. Comme ça, vous comprenez un peu à quel point donc, ils ne sont pas contraints. La plupart des jeunes, comme ressenti, ce qui m'amène au niveau du régime ouvert, je dis bien le régime ouvert, c'est que ça ressemblerait plus à leur goût à un internat avec des règles un peu plus militaires. Ça, c'est plus ou moins ce qu'on me ramène la plupart du temps comme ressenti au niveau des jeunes. Donc ça, c'est le régime ouvert. Ça nous permet de mettre en place beaucoup plus d'activités aussi à l'extérieur. Donc on peut sortir avec les jeunes facilement. Au bout de 2 semaines, ils ont des autorisations de week-end aussi, s'ils ont une bonne conduite générale. Et donc, ces jeunes sont quand même, la plupart du temps, amenés à avoir des activités. Donc en IPPJ, c'est la grande différence peut-être avec un système carcéral, c'est qu'on va vivre en communauté, on ne va pas vivre dans sa chambre. La plupart du temps, on va essayer de garder en activité le jeune du matin jusqu'à son coucher. Donc, selon les sections, ça bouge un peu, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Donc ça, en gros, vous avez une idée de qu'est-ce que le régime ouvert. Après, on a le régime fermé. Donc là, le régime fermé, on n'est plus dans un univers carcéral, on n'est plus dans une logique de contrainte. Donc là, on va avoir beaucoup plus de présence de caméras, on va avoir des barrières physiques, on a des murs, on a des grilles, etc., qui protègent, qui ne permettent pas aux jeunes de sortir. Un exemple concret, c'est au niveau des chambres. Les chambres, dans un régime ouvert, les jeunes peuvent ouvrir la chambre. Alors, ça fait un bip sonore horrible, mais ils peuvent ouvrir ces chambres, et on l'entend dans toute la section, mais ils peuvent partir. Et ils peuvent, par exemple, aller aux toilettes, etc. Il n'y a pas de toilettes dans leur chambre. En section fermée, c'est différent. Leurs chambres sont électroniquement, à distance, fermées. À chaque fois qu'ils veulent parler à quelqu'un quand ils sont en chambre, il y a un parloir, c'est un surveillant qui leur répond, c'est un surveillant qui retransmet leurs paroles, etc., etc. Les toilettes sont dans les chambres quand on est en régime fermé. Les règles sont différentes en régime fermé. Quand on mange, hop, dès qu'on a fini de manger, on prend sa chaise, on se met contre le mur, on montre ses mains pour montrer qu'on n'a pas d'objet contendant. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas, à Wautier-Bren. Je précise que dans chaque IPPJ, il y a des fonctionnements différents aussi là-dessus, mais ça, ça commence à être un peu complexe. Donc là, vous avez la grande idée entre la différence entre un régime ouvert et le régime fermé. Et après, encore, pour un peu complexifier tout ça, parce que ça n'était pas encore assez, vous avez encore des situations différentes, des sections différentes. Donc vous avez trois types de sections. Vous avez une section intermède qui est à Wautier-Bren, qui est une section où on va placer les jeunes pour une durée de 2 semaines en ouvert, dans l'idée de faire un time-out dans leur milieu de vie, dans un centre où, parce qu'ils sont suivis par un éducateur, par des équipes mobiles d'accompagnement, donc c'est un éducateur qui suit les jeunes en famille. Et dès qu'on va voir qu'il y a un souci de violence, de non-respect des conditions, ben, le temps de régler le souci, on va placer le jeune 2 semaines dans cette section en IPPJ. Ce n'est pas censé être renouvelable. Dans la plupart des cas, c'est renouvelé au moins une fois. Moi, j'ai un jeune, ça fait 1 mois et demi qu'il est placé en intermède. Ce n'est pas censé être légal, mais c'est le cas pour le moment parce qu'on ne trouve pas de place dans les centres pour qui lui sont adaptés et qu'il a été officiellement exclu du centre dans lequel il était. Après, on a la section Sévor, ça c'est pour une durée 1 mois. Le but là est d'évaluer et d'orienter le jeune. J'essaie vraiment de faire au plus vite parce que je pense que ça fait déjà un petit temps que je parle. Mais donc là, le but est vraiment d'évaluer et d'orienter le jeune sur une durée 1 mois. Ah, ça va encore, oh, yes. Mais, et du coup, là, normalement, ce n'est pas renouvelable non plus. Dans les faits, ça pour l'anecdote, une fois, il y a eu un coin de scène, je me souviens d'une pièce de théâtre où une juge me disait droit dans les yeux, mais non, il n'y a pas de prolongement qui sont possibles au Sévor ou maximum une fois. Moi, c'était marrant parce qu'elle me disait ça alors que j'avais un jeune, ça faisait 5 mois qu'il était au Sévor. Donc je savais qu'elle me montait droit dans les yeux. Enfin, peut-être qu'elle ne le fait pas, mais elle est censée être au courant de ce que ses collègues peuvent faire aussi. Mais du coup, voilà, les jeunes ne sont pas censés être renouvelés, mais de temps en temps, encore une fois, par manque de place dans d'autres centres, l'IPPJ, c'est un milieu qui est assez précaire, c'est un milieu qui est en crise pour le moment, que ce soit au niveau budgétaire, infrastructure, etc., etc. Vous avez pu voir avec l'actualité qu'il y a d'autres types de crises aussi qui traversent les IPPJ pour le moment. Mais il y a plein d'autres milieux de l'aide à la jeunesse qui sont tout autant en crise et tous s'auto-alimentent. Donc quand on cherche une place adaptée pour un jeune dans un autre centre, la plupart du temps, on se confronte au fait qu'il n'y ait pas de place dans ce centre. Et du coup, le jeune est mis dans une même liste d'attente, comme vous pouvez entendre pour les IPPJ. Et là, alors, ben, on est censé attendre. Et nous, on ne peut pas relâcher le jeune dans la nature si la juge estime qu'il est censé être hébergé quelque part. Donc ce qui se passe, ben, c'est qu'il est prolongé, prolongé, prolongé. Et comme ça, certains jeunes peuvent rester très longtemps. Alors après, on a la section éducation qui peut être autant... Donc section Sévor, chez moi, c'est en ouvert. À Saint-Hubert, que peut-être vous connaissez avec les médias, etc. Là, c'est que des sections Sévor fermées. À Wautier-Bren, après, on a 2 sections éducation ouverte et 1 section éducation fermée. Les sections éducation, là, l'idée est de mettre un plan d'action, un plan d'intervention avec le jeune en place pour une durée de 3 mois minimum, renouvelable ici. Là, on peut le renouveler. Et là, le but est de mettre en place un projet avec le jeune. Le jeune est au centre du projet. C'est à lui aussi de montrer sa volonté de participer à ce projet. La plupart du temps, ça va être un retour à la scolarité, un retour à la formation, mais aussi essayer de régler les problèmes qu'on peut avoir en famille, dans le centre, essayer de trouver une autonomie pour le jeune, donc c'est-à-dire de le mettre dans des projets où le jeune va pouvoir se prendre en main et habiter lui-même dans un appartement. Là encore, c'est des super projets, mais il y a une liste d'attente incroyable. Moi, j'ai déjà eu un jeune qui a attendu 1 an et demi en IPPJ, sa place. Donc voilà, comme ça, vous avez un peu l'idée à ce niveau-là. Tout ça, ça demande énormément d'organisation. Donc une IPPJ, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a énormément de personnes qui y travaillent. Donc pour commencer, ce que vous connaissez peut-être le plus, c'est qu'il y a des éducateurs et éducatrices qui encadrent les jeunes au jour le jour. Donc toujours au minimum 2 éducateurs, éducatrices, et parfois jusqu'à 3 en régime fermé ou dans des moments de crise. Donc c'est 1 jeune pour 5 plus ou moins eux. 1 adulte pour 5 jeunes plutôt. Le contraire sera un peu difficile. Mais voilà, qui se relaient. On est à 10 éducateurs par section. en moyenne. Donc imaginez, fois 5 sections, on est déjà à 50-60 éducateurs qui sont présents. Ensuite, vous avez des formateurs, formatrices qui sont présents, qui vont donc faire en sorte que les jeunes puissent continuer à aller en cours ou en tout cas avoir des activités au sein de l'IPPJ. En intermède, il n'y a pas ça. Donc en intermède, ils n'ont pas cours, etc. Ils n'ont que des activités que les éducateurs peuvent mettre en place. Mais voilà, là, il n'y a pas les cours comme il peut avoir au CEVOR. Au CEVOR, toutes les matinées et une partie de l'après-midi, mais plus en individuel, ils vont avoir des cours de revalidation, enfin de réhabilitation sociale ou de remédiation. Parfois, on fait aussi passer les examens en IPPJ, donc on fait passer les CEB, CE1D. C'est déjà arrivé des CE2D et aussi des CESS, mais c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive aussi. Et du coup, les formateurs, ben, selon des ateliers, vont pouvoir continuer à garder les jeunes en activité. Nous, la particularité à Woutier-Bren, pour vous donner des exemples, on a un atelier d'horticulture qui est un peu notre béaba. C'est vraiment, on a deux serres qu'on continue à maintenir à partir de janvier. Et là, en avril, fin du mois d'avril, on a ce qu'on appelle les portes ouvertes, nous, Woutier-Bren. Alors, ce n'est pas des portes ouvertes, vous ne pouvez pas aller dans l'IPPJ. Vous pouvez juste aller dans un secteur de l'IPPJ, mais pas rentrer dans les bâtiments. On appelle comme ça les portes ouvertes. Et du coup, là, il y a toute l'activité de l'IPPJ qui est centrée autour de ça. Et les jeunes vendent les fleurs qu'ils ont fait pousser tout au cours des mois précédents. C'est à eux que revient l'argent. Et du coup, un jeune, par exemple, sur le week-end, peut se faire 200-300 euros. Ça lui revient, c'est à lui. C'est une petite particularité de chez nous. Après, il y a des ateliers de menuiserie, il y a des ateliers de remédiation. Bref, là, un peu plus dans la norme de ce qu'on peut attendre en tant que formateur, formatrice. Et après, on a toute une équipe PMS, donc psychologues, médecins, infirmiers, etc., qui tout gravite aussi autour de toutes ces sections, sans compter tout le personnel technique, les cuisiniers et enfin une équipe de direction. Donc voilà, comme ça, vous imaginez un peu l'organisation que ça peut être, une IPPJ. C'est vraiment, je pense, 130-140 personnes qui travaillent aussi. Et je pense que c'est important à le noter. Alors, je vais arrêter avec l'IPPJ, je pense que vous voyez plus ou moins ce que c'est. Là, je vais mettre un peu ma casquette de conseiller. Donc moi, j'ai un poste particulier dont j'aimerais parler quand même au sein de l'institution. C'est ce qu'on appelle les conseillers moraux même. Alors, les conseillers, c'est des personnes qui vont apporter une assistance morale aux jeunes qui en font la demande. L'assistance morale, c'est-à-dire qu'on va apporter une écoute active aux jeunes dans une certaine horizontalité, mais surtout dans une confidentialité stricte. C'est-à-dire que ce que le jeune nous partage, il est tenu au secret professionnel strict et on ne va pas le partager avec les autres, avec nos autres collègues, bien entendu, avec quelques limites qui sont que s'il est en train de mettre en danger sa propre vie ou la vie d'autrui dans les quelques minutes qui suivent, dans les quelques heures qui suivent, ben là, oui, on doit agir, bien entendu, parce qu'il y a un danger immédiat. Mais, mis à part ça, on va garder ce que le jeune nous dit et établir une confiance avec ce jeune. Après, nous, l'idée, bien sûr, est d'essayer de faire le tremplin pour que ce jeune aille discuter de ce qu'il a discuté avec nous, avec les éducateurs, avec les psychologues, etc., pour qu'il puisse déconstruire tout ce qu'il a pu nous dire et enfin en faire valoriser tout cela dans son projet éducatif. Mais ça reste avec nous. On donne aussi le cours de morale. Et surtout, en Belgique, la particularité, c'est que du coup, c'est confessionnel ou convictionnel. Donc, c'est un conseiller laïque, un conseiller catholique et un conseiller musulman qui sont présents en IPPJ. Alors, et d'ailleurs, ça a été noté, je pense, par la commission de surveillance, par le rapport. En ce moment, il y a une petite crise au niveau des conseillers. C'est qu'il y a une pénurie. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas tous les conseillers qui sont présents. Donc, il n'y a pas un suivi continu. Et il n'y a pas non plus chaque conseiller qui est présent dans chaque IPPJ. Moi, à Woutier-Bren, je suis tout seul. Il n'y a pas de conseiller musulman, il n'y a pas de conseiller catholique pour le moment. Je n'ai jamais contenu de conseiller catholique et le conseiller musulman est parti il y a quelques mois. Pourquoi cela? C'est parce que ça reste un métier qui est très précaire, mais vraiment très précaire. Déjà de un, au sein de l'institution, on est un peu seul. C'est-à-dire que tout ce qu'on récolte comme parole, ben, on peut le partager avec personne au final. Et aussi, ça crée de la méfiance. C'est-à-dire que ce secret professionnel, ce que les jeunes peuvent nous rapporter, et c'est vrai que de temps en temps, ces jeunes nous rapportent des faits qui ne sont pas à l'avantage de certains éducateurs et éducatrices, surtout éducateurs d'ailleurs. Mais donc, ces jeunes nous rapportent ces faits, et il y a une méfiance qui se crée de la part des autres collègues. Moi, j'ai encore eu un membre de ma direction, il y a 3 semaines, qui m'a dit « t'en fais beaucoup, n'oublie pas que tu ne fais pas totalement partie de l'équipe ici ». Donc ça, voilà, c'est aussi vraiment des remarques qu'on se prend assez souvent. La direction, c'est une première, mais par contre, d'autres collègues qui remettent en question notre validité au sein de l'institution, ça arrive tout le temps. Donc on est isolé, on fait partie d'aucune équipe et on a 2 employeurs. C'est-à-dire, moi, par exemple, c'est le Centre d'action laïque et c'est d'un autre côté la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on a un statut qui n'est pas très clair administratif et en même temps, on a un statut pécunier où on nous demande d'avoir un bachelier. mais on ne va pas être payé à la valeur de notre bachelier. Donc on dit, tiens, il vous faut un bachelier d'assistance sociale au minimum, mais par contre, au niveau pécunier, ben, vous allez être payé comme si vous n'avez qu'un CESS. C'est comme ça, donc rien contre les personnes qui n'ont qu'un CESS et qui travaillent, hein. Mais au niveau de la violence symbolique que ça renvoie à la personne qui fait son métier de dire, on te demande ça, mais tu ne vas avoir que ça, c'est quand même quelque chose d'assez violent dans la vie de tous les jours. Donc voilà, et en plus sur le côté, on donne le cours de morale, mais ça, entre nous, c'est pas ce qu'il y a le plus important dans notre fonction. En parlant de conseiller, mon ancien collègue conseiller musulman, et qui aurait pu me contredire ou me rajouter des choses, mais voilà. Mais, et du coup, après, du coup, pour je sais pas combien de temps il me reste, mais 5 minutes, bah, du coup, je vais quand même essayer de vous faire part d'une ou deux observations, parce que sur le côté, j'ai aussi une deuxième casquette, qui est celle de doctorant en sociologie. Donc je vais vraiment essayer de partager en vitesse deux observations que j'ai. C'est que c'est un secteur, en tout cas je parle de l'IPPJ dans laquelle je travaille, qui est vraiment en grande difficulté pour le moment. Là, au moment où je vous parle, dans mon IPPJ, il y a une ambiance qui est très morose. Les personnes se parlent à peine, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de tensions, c'est très dur de s'y retrouver.
Quand tu dis les personnes se parlent à peine...
Tout le monde.
Les jeunes avec les étudiants.
Tout le monde, c'est-à-dire les jeunes, les adultes, tout le monde sent qu'il y a une crise, il y a une tension permanente qui apporte de plus en plus de violence. Et du coup, ce qui se passe actuellement, c'est que de un, je parlais des équipes éducatives, c'est des équipes éducatives qui sont à bout de souffle. Pourquoi elles sont à bout de souffle? Déjà, c'est des équipes qui croulent sous... Bon, déjà, pour faire de l'individualité avec des jeunes qui ont besoin d'individualité, être que 2 éducateurs pour 10 jeunes... avec tous les soucis qu'il peut avoir dans une IPPJ au cours d'une journée, c'est très difficile, c'est très compliqué, et ça l'est de plus en plus. Pourquoi ça l'est de plus en plus? Déjà parce qu'il y a un manque de moyens. Donc, c'est-à-dire, il y a un sous-effectif total qui est là. Donc, il y a un moyen humain qui est de plus en plus difficile à avoir. Donc, on a beaucoup de maladies, on a beaucoup de turnover, on a beaucoup de personnes qui sont absentes, et du coup, la pression de plus en plus forte sur le peu de personnes qui arrivent encore à tenir. Mais en plus, on a un sous-financement des infrastructures. Donc il faut se dire aussi que c'est de plus en plus difficile de faire des projets avec les jeunes en ayant les moyens. La plupart du temps, ces projets sont refusés ou bien on doit trouver vraiment, et on est assez ingénieux là-dessus, des activités qui sont plutôt gratuites où les personnes vont chercher leurs subsides de chaque côté. Mais surtout, et aussi pour parler des infrastructures, moi, pour vous dire une petite anecdote, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu... l'opportunité, je ne vais pas dire la chance, de visiter la prison de Ypres. Et en fait, quand j'ai été voir les douches, je me suis fait comme réflexion, tiens, les douches ici, elles sont plus propres qu'en IPPJ. Elles sont plus aux normes que ce que j'ai pu observer dans mon IPPJ. C'est-à-dire que nous, en section ouverte et fermée, moi, j'ai déjà eu des jeunes qui m'ont rapporté qu'il y a des larves qui remontent dans les douches, il y a de la moisissure de partout, il y a tout qui craquelle, c'est vraiment immonde. Mais il y a un manque de moyens pour pouvoir rénover tout ça. Et ce manque de moyens se fait ressentir à tous les niveaux. Et en plus, on a un personnel qui croule sous la charge administrative. Donc c'est-à-dire qu'on va de plus en plus infantiliser le personnel et on va de plus en plus lui demander de rendre des comptes administrativement pour les moindres faits et gestes. Ce qui fait que je pense qu'un éducateur en IPPJ en ce moment passe 30 à 40% de son temps plein face, en fait, au final, à son ordinateur. Donc voilà. Je pense que je devrais parler aussi, mais je parlerai peut-être un peu plus tard s'il y a des questions, des violences, etc., qu'on peut voir en IPPJ, mais je vais laisser la parole. Voilà.
Je prends la suite pour la conférence ici. Moi, je m'appelle Anne-Catherine Rasson. Je suis chercheuse postdoctorante en droit ici et je suis spécialisée sur les droits de l'enfant. Et depuis un an et demi, je travaille aussi sur le terrain. Alors, pas le terrain de l'IPPJ. Moi, je suis dans un SRG qui est un service résidentiel général qui accueille donc des enfants qui sont éloignés de leur famille pour des questions de négligence, maltraitance, violence et malheureusement, parfois, simplement pour des raisons de pauvreté. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas celui du jour. Moi, il me revient de vous parler surtout du cadre des droits de l'enfant aujourd'hui, donc un peu dézoomé après avoir été en IPPJ de repartir vers la théorie. Mais j'avais juste envie de rebondir parce que moi, sur mes jeunes, donc on accueille 18 jeunes. J'en ai deux qui sont passés en section intermède à Wautier-Bresnes et il y en a une qui est actuellement à Saint-Servais. Donc on travaille en lien en SRG avec les IPPJ. Et les deux jeunes qui ont été en section intermède, enfin, en tout cas un des deux, je me souviens qu'il voulait absolument revenir au SRG à cause des douches. Il était là, non mais les douches, c'est pas possible, Catherine. J'ai besoin. Et alors il m'expliquait non seulement ce que tu décris là, les moisissures, etc. Mais alors il disait aussi, là-bas, on n'a pas le droit d'avoir notre gel douche et notre shampoing dans la douche. On nous met sprout-prout dans la main et en fait, c'est hyper invasif pour l'intimité, quoi. Donc effectivement, il y a quand même un sacré contraste sur le quotidien, même par rapport à l'accueil en SRG. Alors, pour faire le dézoom, donc, quand un jeune est placé en IPPJ, ben, il relève de la justice pénale pour mineurs. Et cette justice pénale pour mineurs, enfin, qui est plutôt protectionnelle pour mineurs, elle est encadrée par notamment le droit international et par les droits de l'enfant, et donc surtout la convention relative aux droits de l'enfant. C'est d'elle dont j'ai parlé ici. Donc la Convention relative aux droits de l'enfant, elle a été adoptée aux Nations Unies le 20 novembre 1989. Donc ça fait quand même un petit paquet d'années quand même. C'est encore récent, mais c'est plus si récent que ça. Et elle a pour objectif de reconnaître l'enfant comme sujet de droits fondamentaux et que ces droits soient effectifs. Et elle vise à équilibrer d'un côté une protection particulière puisque l'enfant est en situation de vulnérabilité particulière. Et on y reviendra pour... La partie pénale et également quand même son droit à l'autonomie progressive. Donc la Convention lui reconnaît tous les droits fondamentaux au même titre que les adultes, les libertés individuelles et notamment le droit à la participation, c'est-à-dire d'être entendu sur toute décision qu'il concerne et que cette opinion soit prise en considération. Donc il y a vraiment deux pôles dans la Convention qui sont pris en compte, hein, vulnérabilité versus autonomie, qui est quand même un paradigme super intéressant de base. Et juste avant d'en venir à la question de la justice protectionnelle, parce que je pense que Déborah en dira un petit mot tout à l'heure, simplement souligner que si c'était un modèle fondé sur les droits qui a été adopté en 89, malheureusement, à mes yeux, c'est le principe de l'intérêt supérieur qui est vraiment au cœur du modèle des droits de l'enfant. J'ai un collègue, Michael Malien, pour ceux qui le connaissent, qui dit l'intérêt de l'enfant, c'est devenu la star des droits de l'enfant. Donc, en fait, on parle beaucoup plus de l'intérêt de l'enfant que des droits de l'enfant. Alors, en soi, ce n'est pas un mal de base. Alors, moi, j'ai quand même beaucoup de problématiques théoriques par rapport à ça. Mais en soi, si l'intérêt de l'enfant, il est mobilisé comme chemin pour aller vers les droits de l'enfant et qu'on dit c'est dans l'intérêt de l'enfant, mais que derrière, il y a une analyse en droits fondamentaux, protection, vie familiale, développement, santé, j'ai pas de problème avec l'intérêt de l'enfant. Le problème, c'est que dans la pratique, l'intérêt de l'enfant est toujours, enfin pas toujours, est très souvent évalué dans une vision paternaliste, adultiste, où l'adulte en fait vient projeter sa propre subjectivité de ce qui serait le mieux pour cet enfant, plutôt que de faire une analyse en droit. Et ce faisant, l'enfant n'est pas un sujet, mais reste un objet de protection qui est pris en charge par les adultes, qui évaluent son intérêt. Je pourrais vous donner des milliers d'exemples issus de mes recherches ou de ma pratique autour de la notion d'intérêt de l'enfant. Notamment citer le rôle des avocats qui, plutôt que de représenter la parole des enfants, dont c'est le travail, les avocats ont pour rôle de représenter les enfants lors des audiences, que ce soit pour les mineurs en danger ou pour les mineurs qui sont en conflit avec la loi. Pourtant, la plupart des avocats vont donner leur petit avis de ce qu'est l'intérêt de l'enfant, et heureusement pas tous, mais de nombreux le font encore aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, à nouveau, on voit l'enfant sujet de droit qui redevient objet de protection avec tous des adultes qui, dans une vision très paternaliste, patriarcale, cherchent à définir ce qui est le mieux pour lui. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des enjeux sur le terrain, c'est soit d'arrêter avec l'intérêt de l'enfant et de parler des droits de l'enfant, soit de parler de l'intérêt de l'enfant, mais avec les droits dans la tête, quoi. Et de toujours repartir de la parole de l'enfant et de co-construire les solutions avec eux. Ça, je pense que c'est la seule solution si on veut un monde qui soit plus égalitaire par rapport aux enfants. C'est que la parole, en fait, soit le premier vecteur, pas l'intérêt de l'enfant, mais que la porte d'entrée, ce soit la parole et la construction de solutions avec eux et pas contre eux ou sans eux. Alors, j'en viens à présent à la justice pénale pour mineurs. Que nous dit la Convention par rapport à ça ? Ce que la Convention nous dit, donc c'est l'article 40 de la Convention, je dirais qu'il y a deux grands messages clés. C'est d'une part que l'enfant détient des droits, les droits à un procès équitable au même titre que les adultes. Donc il détient le droit à avoir un juge indépendant et impartial, à avoir un avocat, etc. Enfin, tous ces grands droits-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc c'est important de rappeler ça parce qu'on a souvent, on a longtemps douté, et ce n'est pas encore complètement mis en place, que l'enfant ait ces droits-là. Mais en fait, aujourd'hui, c'est clairement reconnu, en tout cas d'un point de vue théorique, l'enfant comme l'adulte a ces droits-là. D'autre part, et ça par contre, on en vient à la spécificité, comme l'adulte, il a le droit à un procès équitable dans toutes ses déclinaisons, mais en tant qu'enfant, il a droit à une justice adaptée à son âge et à sa situation. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. On ne peut pas juger un enfant comme un adulte. Faire cela, c'est porter atteinte à ses droits fondamentaux. Et donc, il est primordial de mettre en place un modèle protectionnel adapté. Alors, contrairement à ce qu'on croit, en fait, il y a deux niveaux à bien prendre en compte. Et la Belgique n'est pas un si mauvais élève sur le plan théorique, parce que quand on entend Nolan, et puis ce qu'on entendra par la suite, on se rend quand même compte que dans les faits, c'est compliqué. Mais sur le plan théorique, donc il y a deux éléments, il y a deux seuils d'âge. D'une part, il y a la majorité pénale, c'est-à-dire que la Convention, elle dit clairement que le système pénal, c'est pour les majeurs. Et on pourrait même discuter des jeunes majeurs, puisqu'on sait en réalité, les recherches en psychologie, en criminologie montrent que le cerveau de l'enfant, en fait, est développé, du jeune adulte est développé véritablement à 25 ans, et que donc, en fait, il faudrait réfléchir aussi. Mais aujourd'hui, on parle des mineurs, donc on va mettre le seuil à 18 ans. L'âge de la majorité pénale, c'est 18 ans. C'est-à-dire qu'aucun mineur, aucun enfant ou jeune de moins de 18 ans ne doit être jugé comme un adulte. Ça, c'est le premier critère. Il est très clair dans la Convention. Donc, tous les États qui permettent une justice pénale pour les mineurs avant 18 ans sont en infraction de la Convention. Alors, il y a un deuxième âge à prendre en compte. C'est l'âge de la capacité à avoir le discernement de porter atteinte. Et donc là, c'est l'âge de la responsabilité pénale. C'est-à-dire qu'en dessous de cet âge-là, on va considérer que l'enfant n'avait pas le discernement et que même le modèle de la justice protectionnelle adaptée aux enfants n'a pas à s'appliquer. C'est simplement un enfant en danger. Alors, le Comité des droits de l'enfant, qui est un organe au niveau des Nations Unies qui dit comment on doit interpréter la Convention, parle quand même d'un seuil d'âge entre 14 et 16 ans. Donc, il y a des États qui considèrent qu'en dessous de 14 ou de 16 ans, même, il n'y a même pas de responsabilité pénale. Alors ça, évidemment, dans le contexte actuel, on n'y est pas du tout. Et le seuil d'âge qui est le plus mis en avant, c'est le seuil d'âge de 12 ans, qui est le seuil d'âge qui a été retenu, par exemple, en Flandre, en Belgique, ou qui est un seuil d'âge qui a été reconnu dans une ordonnance de 2019 pour Bruxelles, mais qui n'est toujours pas applicable aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire que dans ces espaces-là, en Belgique, en dessous de 12 ans, on est en danger, on n'est pas responsable de rien. Du côté francophone, il n'y a pas de seuil d'âge. Et donc, potentiellement, un jeune de moins de 12 ans pourrait être considéré comme FQI, et donc pas simplement en danger. C'est heureusement extrêmement rare, mais ce serait possible. Et donc, on se retrouve entre ces deux seuils-là, hein, donc un seuil qui est le discernement du côté francophone sans un chiffre précis, 12 ans du côté flamand, jusqu'à 18 ans. Et là, on tombe dans le système protectionnel adapté aux enfants en conflit avec la loi. Et dans ce contexte-là, c'est là que la Belgique fait a priori, en tout cas moi je travaille pas mal avec la France, et la France me dit toujours, oh, mais votre système, il est vraiment génial. La Belgique a, sur le plan théorique, un modèle qui est plutôt éducatif, protectionnel, réparateur, et qui correspond donc aux critères de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui parle d'aide, de soins, de réintégration dans la société. Et donc l'idée, c'est vraiment de ne pas juger, de ne pas avoir l'accent en priorité sur le fait infractionnel, mais d'avoir l'accent sur le fait qu'un enfant qui est en conflit avec la loi est un enfant en danger, qui a besoin d'aide, qui a besoin de protection, et pour lequel des mesures éducatives doivent être adaptées. Donc c'est ça que la Convention requiert, et en tout cas d'un point de vue théorique, c'est plutôt comme ça que les choses ont été pensées du côté belge, si ce n'est que récemment, suite à la 6e réforme de l'État, les textes ont été revus dans les différentes régions linguistiques et on voit que du côté flamand, il y a eu un vrai basculement puisque là, maintenant, ils sont passés d'un modèle protectionnel éducatif à un modèle sanctionnateur où, au premier titre, c'est le fait qui permet la réflexion, l'intérêt de l'enfant, sa situation ne venant que dans un second plan. Et il y a évidemment des craintes dans le système actuel qui est de plus en plus sécuritaire qu'à un moment donné, ces mauvaises idées-là viennent du côté francophone et donc je pense qu'il faut quand même garder la vigilance et continuer à plaider sur le fait que le modèle éducatif et protectionnel est le seul modèle qui est conforme aux droits de l'enfant et surtout qui est le seul modèle qui est pertinent pour aider le jeune qui est dans cette crise-là à en sortir et à aller mieux. Le punir sans réfléchir à son éducation, aux soins dont il a besoin et à la réintégration ne sert absolument à rien. Alors moi, je n'ai pas allé plus dans le détail de la prise en charge sur le terrain, puisque Chloé et Déborah en parleront et montreront que si la théorie n'est pas si mauvaise dans la pratique, c'est quand même vraiment beaucoup plus compliqué. Je voulais encore vous dire un petit mot, c'est que sur le plan théorique, il y a quand même un gros problème. Alors, ce n'est pas le sujet du soir, c'était le sujet de l'année passée, hein, n'est-ce pas, Alicia? Mais on a toujours en Belgique la possibilité le tribunal de la jeunesse a toujours la possibilité de se dessaisir. Donc, pour certains jeunes âgés de 16 ans ou plus, le tribunal va considérer que les mesures éducatives ne servent à rien, qu'on a tout essayé pour ce jeune, mais qu'il n'y a plus rien qui est possible, et que donc il doit être déféré devant la justice pour les adultes. Alors ce sont quand même des juridictions qui sont spécialisées, mais le jeune, lui, est jugé comme un adulte, avec des peines comme un adulte. C'est un système qui est vraiment à cheval entre le modèle éducatif et le modèle pénal, dans le sens où, quand il y a privation de liberté, ils ne sont pas directement envoyés dans une prison, mais ils sont au sein du CCMD, qui est le Centre communautaire pour mineurs dessaisis, qui est à Saint-Hubert et qui est un projet spécialisé pour ces jeunes qui sont donc jugés comme des adultes. Il faut quand même savoir que ce système, il est extrêmement délétère pour les enfants et pour les jeunes concernés et pour le respect de leurs droits. Alors, j'ai fait une enquête avec plusieurs collègues, dont Benoît qui est là, au sein du CCMD. Et ce qui est ressorti de la rencontre qu'on a eue avec les professionnels de Saint-Hubert, c'est le fait que le CCMD est le cul entre deux chaises, puisque pour certaines parties de leur travail, ils dépendent de la justice pénale, et pour d'autres parties de leur travail, ils dépendent du modèle éducatif. Donc le cul entre deux chaises, très inconfortable, ça ne marche pas. En fait, le dessaisissement ne marche pas, il faut vraiment sortir de ça. Quand on discute avec les jeunes, en fait, ils ont très bien dit les choses. Ils ont dit, mais en fait, on a le pire des deux systèmes, parce qu'on est jugé comme des adultes, et donc on a les peines lourdes. Et il y a l'année passée, c'était une conférence sur William, dont le prénom a été anonymisé, ou le sens de la peine, un bouquin génial que vous devez lire absolument, un jeune qui était condamné à 29 ans, de prison, donc il reste au CCMD jusqu'à 23 ans et puis il est envoyé en prison s'il n'a pas pété sa cellule avant et alors il y part plus tôt. Mais donc du coup, ils ont le pire, c'est-à-dire qu'ils ont le casier et les lourdes peines. Mais à côté de ça, au sein du CCMD, c'est un modèle très pédagogique, à l'instar des IPPJ. Et quand on les rencontre, ils disent « Mais les IPPJ, c'est pour les jeunes, pas pour nous, nous, on est des adultes. » Et donc, ils doivent demander l'autorisation pour boire un verre de lait, pour sortir de leur champ, pour faire ceci, pour faire cela. Et donc, en fait, certains, à un moment donné, demandent pour aller en prison, pour avoir plus de liberté, parce qu'au sein du CCMD, ils se sentent trop à l'étroit. Et comme ils ne peuvent pas aller en prison quand ils font la demande, ils doivent péter leurs cellules pour pouvoir y aller. Et ça arrive. Et alors, à ce moment-là, ils arrivent en prison sur base d'une sanction, et donc en fait ça démarre, ça complexifie, et donc en fait le dessaisissement, il est contraire aux droits de l'enfant, puisque c'est juger un enfant comme un adulte, c'est contraire à la convention, à la majorité pénale, c'est 18 ans, et d'autre part, le système mis en place, qui se veut un peu entre les deux, au final, fait pire que mieux pour les jeunes concernés. Et donc ça, il faut vraiment y mettre un terme. On sait que le dessaisissement, c'est la pierre angulaire du modèle actuel, et que c'est ce qu'on nous entend souvent dire, mais d'un point de vue, quand on se met du côté des droits des enfants et des jeunes, c'est juste intolérable, inacceptable, et ça doit vraiment cesser. J'ai encore combien de temps, Alicia ?
6 minutes.
Ouais, ça va. Avant-dernier petit mot du côté des droits, la privation de liberté. Donc, quand on parle d'IPPJ, pour le régime fermé, c'est sûr qu'on est dans une privation de liberté. Le régime ouvert, ça se discute, mais compte tenu des contraintes, on peut quand même considérer qu'il s'agit d'une forme de privation de liberté. Et donc pour ça, la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est l'article 37 pour ceux qui veulent le savoir, prévoit des critères qui sont très clairs et sur lesquels Deb reviendra un peu plus tard. C'est que cette privation de liberté ne peut être prévue que par la loi, en dernier ressort et pour la durée la plus brève que possible. Clairement, dans la pratique, le dernier ressort et la durée la plus brève que possible ne sont pas toujours respectés. Et alors, il est aussi important que dans cette privation de liberté, qui donc répond à ces critères assez stricts, il y a lieu, et ça c'est la Convention qui le dit, c'est évidemment de ne jamais torturer ou faire des traitements inhumains et dégradants, premièrement, pas toujours respectés, respecter la dignité, respecter les jeunes, que ce soit un milieu adapté à leurs besoins et à leur âge, et qu'ils soient en contact avec leur famille, avec leurs proches. Or, comme on le dira un peu plus tard, ces différents critères ne sont malheureusement pas toujours, voire jamais respectés pour certains. Notamment, le contact avec la famille et les proches est extrêmement compliqué sur le terrain. Et puis, il y a les violences dont Nolan n'a pas encore entendu parler, mais dont on reparlera plus tard, qui posent problème. Donc voilà, donc ça c'était pour brosser en termes assez rapides, hein, puisqu'on a tous un temps de parole assez contraint, le cadre des droits de l'enfant, qui est donc vraiment de considérer que il y a des limites pour pouvoir mettre en place la justice pénale pour adultes. Il y a des limites pour mettre en place la justice adaptée aux enfants. Et cette justice adaptée aux enfants, elle doit répondre à toute une série de critères. Je voulais juste terminer, tout en faisant le lien avec ce que Nolan a déjà un peu partagé et en faisant écho à ce que Déborah développera sur les jeunes à la croisée des secteurs. Donc c'est vraiment un enjeu actuel, les jeunes à la croisée des secteurs, ou autrement dit les incasables, hein, pour le dire plus simplement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a un colloque le 21 mai organisé par le barreau de Bruxelles pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient y aller, où on interviendra. Donc ce sont vraiment des jeunes qui... Alors c'est pas qu'il n'y a pas de casse pour eux, c'est qu'il y a plein de casse pour eux, mais que tout le monde se les refourque parce que personne n'en veut. Alors là, pour le coup, le sujet de droit, on l'oublie, hein, on est vraiment face à un objet que tout le monde se jette. J'ai des parents qui m'ont dit, parce que j'en ai eu plusieurs, des jeunes qui se sont... En fait, vous trimballez notre fils comme un sac poubelle, quoi. Vous ne savez pas à qui remettre le sac poubelle, et donc vous le trimballez comme un sac poubelle. Enfin, s'il vous plaît, rendez-le nous dans ce contexte-là. Je trouve qu'il n'avait franchement pas tort. Donc voilà, moi, ça, je voulais quand même juste vous en dire un tout petit mot, parce que donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans mon SRG, il y a 3 jeunes qui ont été ou sont en IPPJ, puisque la jeune fille à Saint-Servais y est actuellement, et les deux garçons, maintenant, n'y sont plus, mais sont passés en section intermède. C'est vraiment un parce que là, pour le coup, alors les principes, on est complètement à côté de la plaque. C'est vraiment une violence extrême. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, dans le cadre de l'aide à la jeunesse en SRG, quand il y a un jeune qui part en crise totale, il y a un moment donné, alors moi, je le regrette profondément, mais je n'ai pas encore trouvé de solution pour agir là-dessus, le collectif prime l'individu. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a un jeune qui planque des couteaux partout et qui menace de mettre le feu, et qu'on se dit qu'il y a tous les autres qui sont là, ben, c'est lui qui doit partir. Il ne peut pas rester parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a qu'un éducateur la nuit, et que quand le jeune se balade toutes les nuits, pendant des mois et des mois, dans les autres chambres, et qu'à un moment donné, on trouve des couteaux planqués partout, on se dit, mais enfin, ça va finir par foirer. Et donc, à un moment donné, ben voilà, c'est totalement déshumanisant. Hein, et on participe à ce système-là, mais il faut pouvoir le dire parce que c'est la réalité. Et donc, finalement, dans ces deux situations, parce que pour les garçons, c'était en urgence, la fille, c'est une histoire encore un peu différente, on a besoin d'un éloignement dans les 24 heures. Mais vraiment, en fait, moi, on m'appelle, je suis de garde, et il faut un éloignement tout de suite. Enfin, c'est dans les 24 heures. Enfin, non, il faut un éloignement dans l'heure. Le jeune ne peut plus rester là. Il y a vraiment un sentiment d'urgence totale là, qui est ressenti par l'équipe, par les autres jeunes, par le jeune lui-même. Et alors là, on fait appel à tout le secteur. En fait, ce jeune-là, il a besoin d'un time out. Ça pourrait tout à fait être un autre SRG, ça pourrait être un SRS, ça pourrait être un passage en pédopsychiatrie, parce que parfois, c'est de soins dont ces jeunes ont besoin. En tout cas, il y a besoin d'avoir un espace pour souffler. Et alors là, les réponses qu'on reçoit, c'est « Ah, ben, il y a une place dans 6 mois en SRJ, il y a une place dans 1 mois dans le time out le plus proche. En pédopsychiatrie, vous n'espérez même pas avant 1 an. Même les lits de crise, en fait, ce n'est pas des lits d'urgence, c'est des lits de crise, ça met des semaines. Et donc, en fait, il n'y a pas de solution quand on a besoin d'un éloignement dans l'urgence. Et on se retrouve à ce moment-là contraint en tant qu'institution à aller déposer plainte, parce que ces jeunes finissent comme toujours par commettre des faits, à déposer plainte et à les envoyer, parce que la seule place qu'on a, c'est en IPPJ. Alors, chance qu'on a eue, c'était en section intermède, donc ça reste la section time-out. Mais ça reste quand même que c'est des jeunes pour lesquels qui étaient mineurs en danger, et on leur met le 36-4, hein, le mineur FQI, pour ouvrir ces mesures-là. Et ça veut dire que maintenant, c'est ouvert. Et donc, en fait, ça va les poursuivre durant tout leur parcours. Ce sont des délits prétextes, c'est-à-dire des délits pour lesquels... Enfin, ce sont des faux délits. Il n'y aurait jamais eu plainte s'il n'y avait pas eu un besoin d'une place, une prise en charge différente, avec vraiment, parfois, de la part des mandants, un cadre strict par rapport aux familles. Alors, il y a des familles dans lesquelles ce n'est pas possible de rentrer, mais dans d'autres, on aurait pu imaginer le time-out en famille, quitte à trouver une autre solution, mais ça, c'est inenvisageable. Et donc, c'est finalement l'IPPJ qui est choisi. Et ça, c'est extrêmement problématique. Pareil, mais ça, Déborah en parlera pour les jeunes filles qui sont dans les traites des êtres humains. Au final, elles se retrouvent toutes à Saint-Servais parce qu'il n'y a qu'un centre spécialisé qui peut les accueillir et qui est totalement surbooké. Bon, on m'a même dit, on n'a même pas sur liste d'attente, votre jeune, ça ne sert à rien, il n'y aura pas de place avant des années. Voilà, donc du coup, en fait, elle n'est même pas sur liste d'attente. Et donc, finalement, c'est Saint-Servais qui est la solution. Et donc, ça, c'est quand même extrêmement violent. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, un de mes jeunes avait 12 ans. Et donc, on est vraiment dans l'exceptionnel. Non, on est dans le délit prétexte, juste parce qu'on ne sait plus où mettre un jeune qui, en fait, pète un plomb simplement parce que le système l'a broyé. Parce que ce sont des jeunes qui ont été vraiment broyés par le système dans tous les cas. Et donc, voilà, sur mon petit terrain à moi, le lien IPPJ-SRG, il est vraiment problématique. Et j'espère qu'on construira une nouvelle manière de prendre en charge plus d'intersectorialité, la possibilité de travailler en réseau, avoir des conditions d'admission qui sont similaires, parce que le problème, c'est que les SRJ ne prennent par exemple pas les jeunes. Les SRJ, c'est dans le handicap pour les jeunes qui ont des problèmes de handicap, mais ils prennent en général pas les jeunes le week-end. Ce qui veut dire qu'en fait, pour tous les jeunes qui sont les plus en danger, donc qui ne peuvent pas rentrer chez eux le week-end, il n'y a pas de place pour eux dans ces espaces-là. Et donc, ça complexifie. Et donc là, il y a vraiment un travail d'harmonisation des secteurs et d'intersectoralité pour lutter contre les discriminations et violences que subissent les enfants et les jeunes. Et voilà, j'ai fini. Merci.
Merci. Alors, je prends la relève après mes deux collègues et néanmoins amis. Alors, moi, je suis Chloé Branders. Je suis professeure de criminologie à l'ULB et directrice adjointe du Centre de recherche pénalité, sécurité et déviance. Je fais aussi partie du Génépi Belgique en tant que dans le comité scientifique du Génépi Belgique. Et je suis aussi commissaire dans la commission de surveillance des lieux privatifs de liberté pour jeunes. Voilà, donc c'est un peu avec ces différentes casquettes que je vais prendre la parole aujourd'hui. Mais comme la CDS vient de sortir son rapport annuel, le premier vrai rapport annuel, en tout cas conséquent, avec quand même beaucoup de pages, puisque le rapport annuel fait quand même 86 pages. Mais je vais quand même plus parler de ça aujourd'hui que notamment de mes observations ou les résultats de certaines de mes recherches. Je vais commencer par vous parler donc de la CDS en tant que telle. Je vais vous parler après assez brièvement du rapport. Et puis ce que je vais essayer de faire, c'est de terminer sur les questions qui m'intéressent plus spécifiquement ces derniers temps, puisque je m'intéresse particulièrement à la question du genre en IPPJ. Et donc je ne vais pas amener beaucoup de résultats, mais je vais plutôt lancer quelques questions. Et puis après, on pourrait éventuellement en discuter ensemble. Mais voilà, le programme est déjà bien chargé, donc je vais essayer de faire ça comme ça. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la CDS ? Donc la commission de surveillance, c'est une instance indépendante qui est instituée donc, par le décret du 18 janvier 2018 et aussi le décret du 14 mars 2019 qui est relatif donc, à la prise en charge des jeunes au CCMD. L'idée, c'est de constituer un organe vraiment indépendant et interdisciplinaire avec comme mission, d'une part, de contrôler de manière indépendante donc, les conditions de détention et aussi le respect des droits des jeunes. Alors, initialement, en fait, on devrait faire donc, une visite par mois par institution. Dans les faits, nous sommes pour l'instant véritablement 5 commissaires plus 2 ou 3. Si, quelque chose comme ça, hein, c'est 3 en plus qui vont arriver. Je regarde mes collègues qui sont dans la salle. Donc, véritablement, c'est compliqué pour nous d'aller tous les mois dans les IPPJ faire le travail qu'on nous demande. Néanmoins, on essaye d'atteindre cet objectif. En tout cas, on essaye d'y aller un maximum. Donc, contrôle indépendant des conditions de détention et des droits des jeunes, du respect des droits des jeunes. Aussi, avis et recommandations. On a fait 2 avis en 2025 et les 2 portaient sur la situation spécifique de Saint-Hubert. Tout est disponible en ligne, hein, les avis sont disponibles en ligne. Le nouveau rapport annuel est aussi disponible en ligne. On avait mis l'image qui est partie, mais on pourra vous la remettre après. Troisième mission, la conciliation entre les jeunes et les directions. En cas de contestation d'une décision, on en a accompagné 2 aussi en 2025. Et c'est donc en lien aussi avec la commission de recours, qui n'est pas la commission de surveillance, qui est une autre institution. Et dernière donc mission, établir un rapport annuel qui est adressé au Parlement et au gouvernement de la communauté française. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, quand on est en visite, d'une part, on discute beaucoup, on discute avec les directions, on discute avec le personnel, on essaie d'avoir une attention spécifique à discuter avec différents membres du personnel, éducateurs, éducatrices, surveillants, surveillantes, mais aussi les formateurs, les formatrices et l'équipe psychomédico-sociale. Et puis, bien sûr, on va à la rencontre des jeunes et c'est avec les jeunes qu'on essaie de passer le plus de temps. On fait soit des entretiens collectifs, soit des entretiens individuels. En 2025, on a fait 46 visites, pour vous donner une idée. On fait aussi des observations, donc simplement on se balade, voilà, on peut manger avec les jeunes sur le temps de midi, donc, ce qui fait qu'on voit aussi des choses, on écoute, on discute aussi de manière très informelle. On peut consulter toute une série de documents, les registres des sanctions, par exemple, savoir aussi quel est le nombre de personnel présent, quels ont été les horaires du mois, etc. On a aussi un commissaire qui est médecin et qui peut donc accéder aux dossiers médicaux des jeunes. Et puis, après chaque visite, on fait donc un rapport de visite. Et c'est sur base de ces rapports de visite qu'après, on constitue donc le rapport annuel. Alors, le rapport annuel, je vais vous tracer les éléments qui sont vraiment plus transversaux de ce rapport annuel. Alors, la première, et qui corrobore ce qui a déjà été dit, notamment par Anne-Catherine, c'est qu'on souligne que la réponse répressive, ce n'est pas la meilleure réponse à donner, qu'un enfant et qu'un jeune qui est en conflit avec la loi est avant tout un jeune en danger. Donc, à la répression, vaut mieux toujours favoriser la prévention, évidemment. Et au-delà de la prévention, les réponses plutôt en termes de réparation et de médiation. Et donc, en effet, la réponse répressive doit véritablement être la dernière réponse possible et, comme l'a rappelé Anne-Catherine, pour la durée la plus brève possible. On s'aligne là-dessus et le rapport le rappelle encore. L'autre élément qu'on rappelle aussi dans ce rapport, c'est de dire que le système protectionnel aussi, comme l'a rappelé Anne-Catherine, est en théorie un bon système et que c'est un système fondamentalement à protéger. Et que, notamment, là-dedans, avoir un organe indépendant qui vient vérifier toute une série de choses, si les rouages peuvent être un peu huilés grâce, notamment, à la CDS, on peut essayer d'avancer dans ce sens-là. Mais donc, sur le fond, le système protectionnel est un système à protéger. Un grand constat qu'on a aussi, c'est qu'il y a énormément de difficultés structurelles en IPPJ, qui vont en fait créer toute une série de tensions et de ces tensions vont découler toute une série d'abus, malheureusement, que je vais lister juste après. Mais donc les abus aussi qu'on a pu observer, les situations plus spécifiques, plus ponctuelles, sont en réalité aussi à considérer comme étant toute une série de symptômes d'un système structurel où il y a toute une série de problématiques transversales. Alors, dans les difficultés structurelles, on en a déjà cité quelques-unes, mais donc il y a la vétusté des bâtiments. Donc, une des grandes recommandations du rapport est de pouvoir refinancer véritablement le système général et remettre en état toute une série de bâtiments qui sont complètement dysfonctionnels. Un exemple aussi qui est frappant, c'est notamment dans certaines IPPJ, le système de ventilation est complètement défaillant, ce qui fait que les jeunes vont très très mal respirer dans les chambres et vont avoir lié à ça toute une série de problématiques aussi médicales, puisqu'ils respirent très très mal, ils n'ont pas assez d'air. Par ailleurs, certains jeunes vont du coup casser les petits systèmes de ventilation, ce qui fait qu'ils ont un peu plus d'air dans leur espace de séjour, mais par contre, une fois que l'hiver arrive, ils gèlent dans leur espace de séjour parce que le système de ventilation est pété et qu'il faut le temps qu'éventuellement ces systèmes soient réparés. Pour rajouter sur la question de la vétusté des bâtiments. Autre élément dans ces difficultés structurelles qui viennent donc alourdir le travail des équipes éducatives et des directions sur place, ce sont les coupes budgétaires qui vont impacter toute une série de choses, notamment, Nolan en a parlé, les activités sportives, les activités culturelles, mais aussi la nourriture. Alors ça peut paraître anodin, les questions de nourriture. Mais quand on est enfermé et quand on change les habitudes alimentaires ou qu'on ne permet pas cette diversité aussi en termes d'accessibilité de la nourriture, ça peut créer directement énormément de frustration. Et donc, si c'est bien une observation qu'on a eue presque systématiquement dans toutes les IPPJ, c'est des jeunes qui vont se plaindre de ne pas avoir assez à manger et de ne pas avoir assez de diversification aussi dans leur nourriture. C'est des petits plus qui vont vraiment permettre aussi d'améliorer les conditions de détention. Troisième difficulté structurelle à souligner, c'est l'absentéisme dans les équipes et donc la difficulté aussi d'avoir des équipes complètes dans pas mal d'IPPJ, pas mal de turnover aussi dans les équipes. Qui va être renforcée par un recrutement d'éducateurs et d'éducatrices qui prend énormément de temps et qui est d'autant plus rendu difficile aussi qu'il y a finalement assez peu de personnes qui vont véritablement postuler. Donc les recrutements sont extrêmement lents et très difficiles, ce qui fait qu'il y a énormément d'équipes qui restent en sous-effectif et qui restent des équipes qui ne sont pas complètes. Et de nouveau, des équipes pas complètes en IPPJ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des activités qui sautent, des possibilités de sortir de chambres qui sont réduites, etc. etc. Donc quand on est... Le fait que les IPPJ fonctionnent comme ça en flux tendu avec des équipes où dès qu'il y a quelqu'un qui saute, ben ça va rendre tout le système dysfonctionnant. Si en plus on rajoute à ça voilà, des difficultés de recrutement, ça devient très très compliqué. Autre élément aussi à souligner, j'en reparlerai juste après quand je parlerai peut-être un peu de Saint-Hubert, c'est qu'il n'y a pas de service minimum non plus quand les éducateurs et les éducatrices partent en grève. Alors ils ont tout à fait le droit, et c'est très très important, le droit de grève, mais penser aussi derrière à avoir un service minimum, c'est garantir que les jeunes et les droits des jeunes puissent être respectés derrière. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui pour l'instant n'existe pas non plus. Une question assez importante, c'est de penser aussi à la revalorisation de manière générale des travaux du travail éducatif, du travail aussi métier de conseiller moral, comme l'a rappelé Nolan. Il y a énormément de difficultés aussi à trouver des formateurs et des formatrices pour les IPPJ. Donc l'enseignement, il n'y a pas de continuité effective de l'enseignement en IPPJ dans plein d'institutions. Et donc ça reste vraiment très, très problématique. Donc avec tout ça, hein, ce que je veux vraiment mettre en avant... c'est de dire que dans le rapport, on souligne vraiment que les équipes, les IPPJ et le CCMD tiennent vraiment grâce à la créativité, comme disait Nolan, à la créativité et à l'engagement des équipes éducatives. Il y a quelque chose qui tient grâce à ces gens-là qui sont sur le terrain et qui vont vraiment faire le taf, alors que derrière, ils pâtissent de toute une série de problématiques structurelles et de nouveau, dans ces problématiques structurelles créent des tensions, ça crée des abus, et évidemment, les abus pâtissent directement sur le droit des jeunes. Alors, parmi les constats, donc, il y a plusieurs chapitres hein, dans le rapport. Je ne vais pas revenir sur chacun d'eux, je vais retenir trois éléments. Le premier, qui est aussi assez transversal, qui est notre premier chapitre, je reviens dessus, c'est la question de la normalisation. Donc, on a vraiment mis en avant l'importance de rendre le concept de normalisation vraiment effectif dans les IPPJ. La question de la normalisation, c'est de faire en sorte que les conditions de vie en IPPJ soient le plus proche possible des conditions de vie dans lesquelles les jeunes auraient été s'ils avaient été en dehors d'IPPJ. Donc la normalisation, ça passe par toute une série d'éléments qui, en fait, ramènent à une vie qui est une vie plus normale. Et donc ça passe notamment avec le renforcement des liens avec l'extérieur, intérieur-extérieur. C'est vraiment un des éléments clés de cette normalisation. Alors, on l'a dit, c'est très compliqué parce que les IPPJ, notamment, sont répartis sur le territoire, mais vont être très éloignés pour la plupart. C'est très compliqué de s'y rendre. Donc, notamment le fait de pouvoir rester en lien avec sa famille, c'est quelque chose qui reste encore extrêmement compliqué. Elles sont mal desservies, elles sont éloignées. Donc, pour maintenir véritablement le lien familial, c'est quelque chose qui reste très, très compliqué pour les IPPJ.